Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont diffusés par nos 52 radios partenaires dans tout le Niger. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangou qui traite de l'importance des soins primaires d'urgence dans la réduction de la morbidité et la mortalité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde entier, plus d'un milliard de personnes risquent de passer sous le seuil de pauvreté du fait des dépenses de santé à leur charge, représentant 10% ou plus du budget de leur ménage. Grâce à une intensification des interventions de soins de santé primaire dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, 60 millions de vies pourraient être sauvées et l'espérance de vie moyenne pourrait augmenter de 3,7 ans d'ici 2030. Au Niger, les soins primaires d'urgence sont développés par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Alors, qu'est-ce qu'on entend par soins primaires d'urgence et quelles sont leurs importances à ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de trouver des réponses au cours des 45 minutes à venir dans ce studio. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Taher Ahmed. Il est le coordinateur santé adjoint au CICR. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Nous recevons également Dr Abdelkarim Salifou. Il est médecin chirurgien à l'hôpital national de Niamey. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et docteur Abdoulaye Omar Cissé, il est maître formateur. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je suis le fils Adam Sirfou à la modération. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et chers invités. Merci de votre participation. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous parlons des soins primaires d'urgence. Je commence avec vous, docteur Taher. Vous êtes le coordinateur santé adjoint au CICR. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par soins primaires d'urgence?
Merci beaucoup, madame, de nous avoir donné cette opportunité de venir nous exprimer sur ce plateau qui est très écouté sur jusqu'à 52 chaînes radio partenaires ici au Niger.
Tout le plaisir est pour nous.
Donc, alors... Les soins primaires d'urgence, peut-être le formateur va revenir sur ça.
Effectivement, oui.
Donc, c'est, en fait, on entend par soins primaires d'urgence l'ensemble des soins qu'on peut délivrer, que les personnes qui sont en première ligne des urgences, qui reçoivent des urgences vitales et aussi qui reçoivent des blessés par arme, arrivent à délivrer à des personnes dont le pronostic vital est déjà engagé ou peut être engagé.
Mm-hmm.
Presque l'ensemble des agents de santé peuvent pratiquer les soins primaires d'urgence. Mais il y a une cible qui seront très privilégiées. Ce sont surtout les agents de santé qui se trouvent dans des situations où ils n'ont pas l'ensemble du plateau technique requis. C'est-à-dire ils n'ont pas l'ensemble des matériels et l'ensemble des médicaments qu'il faut pour pouvoir prendre en charge ces soins qui sont vitaux. Ce sont surtout ces personnes-là qui sont les plus souvent ciblées. Donc, l'objectif de ces soins primaires d'urgence, c'est une façon de renforcer les capacités des agents de santé à avoir le bon réflexe en cas d'urgence médico-chirurgicale qui peut mettre en danger la vie du patient.
Donc, vous parlez donc de renforcement de capacité des agents de santé. Comme je le disais plus haut, le CICR, vous développez ces soins d'urgence depuis quand?
Alors, les soins d'urgence, déjà, le CICR n'a pas un programme spécifique pour les soins d'urgence. Le CICR a des programmes au niveau des soins de santé primaire, au niveau soins de santé secondaire, soins de santé primaire, c'est-à-dire au niveau des centres de santé intégrés. Le CICR a aussi un programme au niveau des hôpitaux, c'est-à-dire il y a un certain nombre des hôpitaux qui sont soutenus par le CICR. Mais dans le domaine de la formation, le CICR avait constaté, tout est parti d'un constat, que les structures que nous soutenons et aussi d'autres structures reçoivent le plus souvent des patients dans un pronostic dans une situation dont le pronostic vital peut être engagé. Quand je dis pronostic vital peut être engagé, c'est-à-dire des patients qui arrivent dans une urgence absolue. Et là, il n'est pas sûr ou bien il n'est pas certain que ces structures sanitaires là, que ce soit au niveau primaire ou bien au niveau de ces hôpitaux-là, dispose de tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir sauver la vie de ces patients-là.
Mmh.
Alors, le concept de soins primaires d'urgence approche du patient gravement blessé ou malade a été développé, un cours qui a été développé pour pouvoir résumer l'ensemble de ces urgences-là qui peuvent arriver dans un contexte surtout où on est confronté à la limitation des ressources. réunir toutes ces urgences-là et de proposer des gestes simples pour stabiliser et sauver la vie du patient avant de le référer pour avoir des soins beaucoup plus spécialisés. Donc c'était ça, c'était à partant de ce constat-là qu'on a voulu proposer cette approche-là pour ces structures qui sont au niveau primaire ou peut-être même au niveau secondaire qui peuvent être confrontées à la prise en charge de ces patients-là.
C'est donc une formation qui a été organisée tout récemment. Est-ce la première initiative?
Oui, c'est la première initiative. La formation, peut-être le formateur va revenir là-dessus, comme je l'ai dit encore. C'est une formation, les soins primaires d'urgence, même l'ensemble, c'est un module, c'est un cours qui a été développé. C'est un cours qui a été développé par l'initiative du CICR, de l'OMS et aussi de la Fédération internationale de la médecine d'urgence. Et dans ce cours-là, comme je le disais, presque toutes les urgences, les urgences qui sont les plus souvent fréquentes dans notre contexte qui ont été réunies dans ce cours-là. Et on a proposé des méthodes et surtout aussi des techniques de prise en charge de ces urgences-là.
Nous allons justement en venir sur les méthodes et techniques qui ont été dispensées au cours de cette formation. Alors, docteur Cissé Omar, vous êtes maître formateur. Parlez-nous de cette formation organisée par le CICR, le cours sur les soins primaires.
Donc, je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez pour parler des soins primaires d'urgence. Un atelier de formation qui est à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, du CICR, comme Dr Tahel l'a dit, de la Fédération internationale de médecine d'urgence et d'autres partenaires qui commencent à s'y intéresser. Voilà, ce cours, il est basique, comme vous l'entendez, soins primaires. Voilà, d'abord parce qu'il est destiné à des prestataires de soins qui sont au niveau périphérique, donc ne disposant pas de tous les moyens techniques pour pouvoir prendre en charge des patients dont le pronostic vital, donc des patients qui, lorsqu'ils ne reçoivent pas des soins, tout de suite peuvent malheureusement perdre la vie.
Oui, vous donc, parlez des prestataires, sans vous couper la parole, des prestataires, c'est-à-dire des infirmiers, des médecins, spécifiquement, quels sont
absolument,
la catégorie absolument, de ces prestataires qui bénéficient?
Il s'agit des prestataires qui interviennent déjà dans ce qu'on appelle le préhospitalier, donc c'est-à-dire avant l'hôpital, et les prestataires qui reçoivent aussitôt ces patients-là en milieu hospitalier. Donc ils sont composés déjà des ambulanciers qu'il faut former à ces techniques de prise en charge, des infirmiers, des sapeurs-pompiers, et jusqu'aux médecins. Voilà, parce que voilà, ils auront tous
quelque chose à faire. Alors,
exactement, il s'agit d'une chaîne de prise en charge.
Alors, cette formation, quelles sont les thématiques que vous avez abordées au cours de cette formation? Les thématiques les plus importantes?
Ok, donc il s'agissait déjà de pas formater le personnel, mais d'amener le personnel à procéder de façon systématique et de façon systémique à la gestion d'un patient gravement malade ou gravement blessé. Donc, ça va du patient blessé jusqu'au patient gravement malade, donc où le patient peut présenter des difficultés à respirer, donc il faut assurer cela, où le patient peut avoir des troubles de la conscience, donc jusqu'au coma. Donc comment gérer ce genre de patients? Donc plus tard, je pense qu'on va développer
justement
ces thématiques-là.
Alors merci bien pour ces précisions. Docteur Abdul Karim Salifou, vous êtes médecin chirurgien à l'hôpital national de Niamey et vous êtes participant à cette formation au cours sur les soins primaires qui ont été donnés par le CICR. Alors dites-nous, quels sont selon vous aujourd'hui, à travers les acquis de cette formation, l'importance des soins primaires?
Okay. Merci madame de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par rapport à cette formation que nous avons reçue. Donc l'importance de cette formation des soins primaires d'urgence, c'est de nous permettre d'acquérir des compétences nécessaires pour prendre en charge des cas urgents. Si je dis des cas urgents, ce sont des cas qui, dans les minutes qui suivent, s'ils n'ont pas une prise en charge adéquate, et ils vont le pronostic vital est en jeu. Donc, Cette prise en charge, cette formation peut se faire, cette prise en charge peut se faire dans le coin le plus reculé du pays, à savoir en périphérie, avec des moyens simples, comme l'avait dit Dr Sissi. Donc pour sauver des vies et effectivement poser un geste et les envoyer au niveau supérieur pour la suite de la prise en charge.
Justement, quelles sont donc les méthodes ou pratiques que aujourd'hui vous avez acquis à travers cette formation?
Les méthodes et acquis sont vraiment nombreuses.
Parmi elles, vous pouvez nous citer quelques-unes.
Par exemple, si je peux citer le remplissage d'un patient en état de choc. Ça, c'est une des compétences. Décompression à l'aiguille en cas d'un pneumothorax aigu. Comment faire arrêter un saignement cataclysmique chez un malade? Et également, comment immobiliser un patient traumatisé? Comment immobiliser un patient traumatisé, par exemple, du rachis cervical ou de la colonne vertébrale? Comment également, chez une femme enceinte qui, après avoir accouché, est en train d'avoir une hémorragie cataclysmique, comment également essayer d'arrêter ce saignement-là par des massages et l'administration de certains produits comme l'ocytocine.
Vous êtes déjà aujourd'hui sur le terrain en tant que médecin chirurgien, donc toutes ces pratiques sont nouvelles pour vous aujourd'hui que vous venez de découvrir?
Donc les pratiques, si je peux le dire, parce que c'est des gestes simples que les gens auparavant ne savent pas comment l'appliquer. Mais avec cette formation, c'est vraiment des gestes que
pour
tu
renforcer
peux,
vos capacités.
Pour renforcer également nos capacités.
D'accord. Merci bien. Je reviens vers vous, docteur Taher Ahmed. Je rappelle que vous êtes le coordinateur santé adjoint au CICR. Alors, les soins primaires sont d'une importance capitale. L'OMS même considère que les soins primaires d'urgence sont comme la base du système de santé dans les pays en voie de développement. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi aujourd'hui s'agit-il de l'un des problèmes humanitaires majeurs de nos pays?
Alors, il s'agit d'un problème humanitaire majeur parce que tout simplement, comme on l'a dit, ce sont des soins primaires, ce sont les premiers soins. Et les personnes qui délivrent ces soins-là sont la plupart des temps au niveau périphérique. Et qui connaît notre contexte, quand je dis notre contexte, c'est-à-dire de façon générale notre contexte africain ou bien des pays en voie de développement, on sait qu'au niveau primaire, on n'a pas presque toutes les ressources dont on a besoin pour pouvoir prendre en charge certains malades. Peut-être il y a beaucoup d'agents de santé ou bien des professionnels de la santé qui, dans leur formation, ont déjà appris certains gestes à pouvoir poser sur des malades. Mais quand ils se retrouvent au niveau périphérique, ils n'ont pas, presque toutes les conditions ne sont pas requises pour pouvoir poser ces gestes-là pour sauver ces vies. Donc cette approche-là est vraiment révolutionnaire et très importante, d'autant plus que ça essaye d'adapter ces agents de santé là, ces professionnels de la santé là, à cette situation de limitation des ressources. On t'apprend en fait en un rien de temps comment poser un geste pour sauver la vie du patient. C'est ce que parmi les gestes que Dr Abdelkarim vient de dire, par exemple la décompression à l'aiguille. Si vous êtes dans un village lointain comme ça, vous trouvez un patient qui fait un accident avec un traumatisme, c'est-à-dire avec une blessure au niveau du thorax, son poumon se remplit d'air et qu'il est en train de suffoquer, il est en train de sur le point de mourir, on t'apprend à sauver la vie de ce patient-là avec une simple aiguille ou bien avec un simple cathéter. Donc ça, ce sont les gestes. Oui, facilement tu sauves la vie de ce patient-là et tu essayes de le stabiliser et tu le réfères. Donc c'est vraiment très, très utile et aussi ça vient à point nommé parce que tout simplement toutes ces personnes-là qui sont au niveau périphérique, on arrive à renforcer leurs capacités. Ce n'est pas des nouvelles connaissances, ce n'est pas des choses qu'ils ne connaissaient pas. La plupart des choses, ce sont des choses qu'ils les connaissent déjà, mais c'est essayer de synthétiser ces choses-là et de les simplifier et aussi d'essayer de dulier les choses. Parce qu'il y a certains termes qu'on utilise, des termes qui sont trop techniques ou bien trop médicaux, on essaie de ne pas les utiliser pour pouvoir faciliter la compréhension et aussi l'assimilation de ces concepts.
Oui, comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre, voilà.
Exactement.
Alors, les enjeux sont énormes, mais est-ce que, quels sont les problèmes spécifiques même auxquels le programme soins primaires d'urgence du CICR cherche à remédier aujourd'hui?
Le problème spécifique, en fait, c'est vraiment réduire la mortalité et la morbidité. Donc vraiment, l'objectif principal, en fait, c'est de réduire tout ce qui est la mortalité liée à ces urgences vitales. Donc là, quand on passe déjà par le renforcement des capacités des professionnels de la santé, le soutien continu et régulier aux structures de santé qui sont déjà identifiées et qui se trouvent dans des zones qui sont affectées par le conflit, et aussi l'approvisionnement en médicaments et matériel que nous faisons déjà, je pense que tout ça, là, ça concourt à, dans une échelle plus grande, ça concourt à réduire la mortalité et la morbidité de toutes ces personnes qui sont déjà affectées par le conflit armé.
D'accord. Alors, ces soins primaires d'urgence pourraient limiter le nombre des décès. Alors, docteur Cissé, aujourd'hui, dans notre pays, comment les médecins peuvent s'approprier de cette nouvelle technique et la mettre en œuvre sur le terrain?
Merci bien pour la question. Donc, je voulais juste rappeler qu'effectivement, je suis là avec deux autres formateurs. Voilà, donc nous avons tous acquis les compétences avant de devenir maître formateur aujourd'hui. Donc, on est là pour aider le Niger à implémenter ses soins primaires d'urgence. Voilà, donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, en fait, il ne s'agit pas de connaissances tout à fait nouvelles. Il s'agit peut-être d'une approche nouvelle. Voilà, donc cette approche, elle va permettre de pouvoir faire les gestes de façon harmonisée et de façon chronologique pour pouvoir déceler rapidement une situation qui peut mettre la vie du patient en danger et de pouvoir y remédier. Donc, on n'a pas souvent besoin de radio, d'examen de laboratoire pour pouvoir faire ces gestes. Donc, les médecins qui sont dans les structures sont souvent focalisés à aller chercher un diagnostic avant de traiter le patient. Donc, cette approche, c'est justement d'éviter de perdre du temps à aller chercher souvent un diagnostic et prendre en charge avant et la situation qui peut être mortelle avant d'aller chercher quelle en est la cause. Voilà, donc c'est pour ça que cette formation, cette approche-là peut être utile même pour le médecin spécialiste.
Alors, qu'en est-il des compétences de niveau supérieur pour les soins d'urgence et les soins intensifs comme la lecture du ECG ou l'intubation?
Justement, c'est pour ne pas en arriver jusque-là parce que ce sont des gestes souvent qui ne sont pas accessibles quand on est à 200 km de Niamey. Voilà, donc ce sont des gestes que tout le monde ne peut pas poser. Donc, c'est pour cette raison que on forme les gens avec l'approche des soins primaires d'urgence afin de gagner du temps et permettre aux patients d'arriver dans un milieu spécialisé où il peut effectivement bénéficier de ces examens beaucoup plus complexes. Donc les soins primaires d'urgence ne s'approprient pas, ne s'attaquent pas à ces formations-là beaucoup plus spécialisées qui sont vraiment de l'ordre d'un niveau assez supérieur.
Docteur Abdul Karim, vous êtes médecin chirurgien. Vous avez donc participé à cette formation, je le rappelle. Vous êtes aussi aujourd'hui capable de former d'autres personnes?
Oui, merci. Merci, madame. Nous avons participé à cette formation en tant que participants. Il y a un processus pour devenir formateur.
Oui.
Donc, d'abord, pour la formation des participants, et ça se déroule sur 4 à 5 jours au minimum. Et il y a des conditions à remplir pour avoir le certificat d'un participant. Donc, pour avoir le certificat d'un participant, il faut d'abord faire un pré-test. Ça, c'est depuis le premier jour de la formation. Après, il faut assister à toutes les séances. Chaque jour, il faut que tu sois présent. Donc, l'assiduité et la ponctualité y est. Il faut également, chaque participant a un cahier dans lequel il est obligé de remplir les mots-clés, de répondre à des questions d'exercice. Et ces cahiers-là sont contrôlés. Le quatrième point, il faut réussir à toutes les évaluations de compétences, les gestes qu'on fait sur des malades en cas d'urgence. Cinquième point, il faut mener avec succès également les scénarios des petits groupes. Donc, il y a un scénario qu'on organise pour les participants, il faut réussir à ces scénarios. Mmh. Et enfin, il faut obtenir un pourcentage de 75% au post-test. Mmh. C'est à l'issue de ça que nos maîtres formateurs vont dire que tu as réussi à cette formation. Et maintenant, parmi ceux qui sont réussis, il y a des gens qu'on choisit pour faire la formation de formateur. La formation de formateur également se déroule sur 2 jours. Elle-même, elle a des conditions. Non seulement il faut faire un post-test, réussir à tout ce que j'ai dit, et le post-test également. Il faut faire un pré-test, réussir aux conditions, assister à toutes les séances, avoir une assiduité, une ponctualité, réussir à des compétences.
D'accord.
Gérer avec succès et ensuite, à l'issue de ça, les maîtres formateurs, quand vous avez 75% au post-test, c'est en ce moment qu'on te dit que vous êtes formateur.
Voilà. Et aujourd'hui, quel est l'équipement nécessaire pour la conduite d'une formation sur les soins primaires d'urgence?
Donc, les équipements nécessaires sont énormes. Énormes et coûteuses. Mmh. Entre autres, je peux citer, par exemple, les mannequins. Que nous n'avons pas sur place. À cette formation-là, les mannequins sont venus d'ailleurs. Mm. Si on prend, ils sont venus du Mali, du Congo,
pour
du
illustrer
Kenya.
Les scènes.
Oui, pour faire la pratique même.
Voilà.
Pour faire la pratique, ils sont venus de choses. Ils sont venus de contrées éloignées. Mm. Ces mannequins-là. En dehors de mannequins, il faut avoir des consommables médicaux. Les consommables médicaux sont les... Si on prend, il y a des masques, il y a des perfuseurs, il y a des garrots, ainsi de suite,
d'accord,
pour ne citer que cela.
Voilà. Alors peut-être, docteur Cissé, vous avez un complément d'information sur cette question, comment devenir formateur aujourd'hui?
Bien sûr, voilà, il faut déjà mettre les participants dans les conditions de la réalité, en fait. Mmh. Voilà, donc on fait des simulations de malades. Voilà, donc c'est pour cela qu'il est important d'avoir ces mannequins, d'avoir tous ces équipements médicaux qui ne sont pas aussi extraordinaires, qui peuvent être disponibilisés. Voilà, des moyens pour faire des immobilisations improvisées, par exemple, pour quelqu'un qui se blesse au cou, pour le temps de l'immobiliser pour qu'il puisse arriver vivant à l'hôpital et pouvoir faire ses radios, voir des chirurgiens spécialistes en la matière. Voilà, donc, ce sont quand même des équipements qui sont nécessaires pour que les participants puissent se familiariser, s'habituer à ces petits gestes-là, et afin de pouvoir les utiliser à grande échelle chez les patients quand ils seront confrontés aux patients graves.
Oui, mais en dehors aujourd'hui des agents de santé, des sapeurs-pompiers, pour qui cette formation ou bien les soins primaires, le cours du soin primaire pourrait être bénéfique?
Bon, commençons déjà par les autorités. Oui. Il faut que ça soit une politique nationale. D'amener tous les personnels soignants à s'approprier cette technique, cette approche d'évaluation et de prise en charge du patient grave avec des conditions et des moyens, je le répète, assez rudimentaires et assez limités. Mmh. Donc, comme je le disais, ça va de l'ambulancier jusqu'au chirurgien. Voilà. Mmh. Pour ainsi dire, tous ceux qui peuvent être les premiers à être en contact avec un patient grave.
D'accord. Alors, je reviens vers vous, docteur Taher. Vous êtes le coordinateur santé adjoint au CICR. Cette initiative, vous comptez la mettre en œuvre pour aider nos autorités en matière de lutte contre la morbidité, pour limiter le taux de morbidité, de mortalité. Dans quelle localité cette expérience sera expérimentée?
Le CICR... intervient déjà dans la région des Diffa, région de Tawa et la région de Tillabéri. Pour une première expérience, comme c'est la première fois que nous essayons d'organiser cette formation au Niger, donc notre objectif en fait c'était vraiment d'être totalement autonome sur ce cours-là. Quand je dis autonome, pour cette session-là, on a les master-trainers qui sont venus nous former, sont venus d'ailleurs. Le CICR a fait en sorte qu'il y ait un pool de formateurs et de master-trainers. Mmh. Quand on dit master-trainers, c'est-à-dire des personnes qui seront capables de former des formateurs. Mmh. Donc, à l'issue de cette formation, déjà, il y a un pool de 12 personnes qui sont des formateurs et 5 personnes qui sont des master trainers. Donc ces master trainers, ils sont répartis un peu dans les formations sanitaires et dans les régions, ainsi que les formateurs. Donc on a par exemple à l'issue de cette formation des formateurs qui sont des DIFA, des formateurs qui sont des TAWA, des formateurs qui sont des TILABERI et des formateurs qui sont de Zender et aussi de Niamey. Donc vu que toutes ces personnes-là sont venues des contrées différentes, le CICR va soutenir et encourager ces personnes-là à organiser chacun des formations dans la localité où elles se trouvent. Bien au-delà, si par exemple un besoin se trouve dans une autre zone, même si ce n'est pas des zones dans lesquelles le CICR intervient et que cette formation est vraiment très bénéfique, ces formateurs qui sont à partir de ce jour-là, des certifiés formateurs, peuvent organiser cette formation. À la demande même du ministère ou bien d'une formation sanitaire, ils peuvent facilement aller organiser cette formation partout où les besoins se fera sentir. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas de limite où cette formation sera organisée. Cette formation peut être organisée même à Agadez, à Zender, à Maradi, partout au Niger où les besoins se fera sentir. Mais juste que vous rappelez que nous avons veillé à ce que les formateurs et les master trainers soient un peu répartis sur des zones différentes, de telle sorte que pour mobiliser un formateur, on n'aura pas de difficulté d'avoir un formateur beaucoup plus proche. En fait, on a fait 3 sessions de formation. Comme on a dit qu'il y a plusieurs parcours, d'abord, on a fait une première session donc d'une semaine qui a commencé le 28 octobre. À l'issue de cette formation, on a formé 7 personnes. Après cela, on a formé des formateurs. Donc, ce sont ces formateurs-là, pour devenir des maîtres formateurs, il faut que ces nouveaux formateurs-là forme deux sessions différentes et aussi forme des formateurs sous la supervision des master trainers qui sont venus de l'extérieur, dont notre collègue Dr Cissé qui nous vient du Mali.
Alors aujourd'hui, vous avez à votre actif au moins 12 personnes qui ont été formées sur les soins primaires. Est-ce à dire qu'ils sont déjà actifs sur le terrain de l'immédiat?
Oui, à partir de cet instant-là, ils sont déjà des formateurs. Mais ils ne peuvent pas organiser la formation seuls. Donc ça demande un certain nombre d'exigences. Par exemple, selon les exigences du BEC, un seul formateur ne peut prendre que maximum 5 participants. C'est-à-dire, si on veut former 20 personnes, il faut minimum 4 formateurs.
Et sur le terrain, ils sont aptes à appliquer tous les soins d'urgence.
Exactement. C'est pourquoi même, dès le choix même, là, je profite pour dire merci au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, particulièrement à la direction de l'organisation des soins, qui nous ont vraiment soutenus et qui nous ont appuyés pour pouvoir identifier et cibler des personnes qui sont vraiment bien placées pour pouvoir prodiguer ces soins-là au niveau des structures sanitaires publiques.
D'accord. Alors, docteur Cissé, je reviens vers vous. Plus haut, vous parlez de l'approche du patient gravement malade ou blessé. Quel est le but donc et le contenu même de cette approche?
Ok, merci. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à la question du nombre de participants formés. Ils sont au total 25, en fait. Et c'est sur les 25-là qu'on a aujourd'hui, pour le Niger, 12 formateurs, donc dont 5 maîtres formateurs. Voilà, donc ils sont aujourd'hui autonomes. Alors, le contenu de ces différents modules, comme je le disais, vont déjà...
L'approche du patient gravement blessé.
Donc, comme je l'ai dit, c'est une approche un peu systématisée, donc où on va donner des lettres aussi simples, voilà, les lettres A, B, C, D, E, voilà, et chaque lettre a un contenu, et ce contenu va de l'évaluation clinique du patient grave jusqu'à sa prise en charge. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus facile avec ces méthodes-là de passer le message. Donc, en plus de cette approche ABCD que désormais les participants vont s'approprier et mettre en pratique sur le terrain, nous avons aussi la prise en charge des affections qu'on va les enseigner. Voilà, il s'agit, comme je le disais, des patients avec les difficultés respiratoires, supposons un patient qui s'étouffe. Voilà, comment les gérer, parce qu'il n'a pas le temps. S'il faut l'amener jusqu'à l'hôpital, il a souvent très peu de chances d'y arriver. Donc, si tu es le premier à l'avoir, comment aller gérer ces patients-là, jusqu'au patient, par exemple, qui saigne abondamment. Voilà. Et la spécificité, à chaque fois, nous donnons des spécificités liées aux enfants et aux femmes enceintes qui sont aussi des couches assez vulnérables.
Voilà, des couches. Alors, docteur Abdul Karim Salifou, le support de cette formation présente aujourd'hui une approche systématique de prise en charge des pathologies et affections aiguës, engageant donc le pronostic vital avant même qu'un diagnostic ne soit fait. Aujourd'hui, vous qui êtes sur le terrain, quel est le plus grand défi auquel vous faites face?
Donc, merci madame pour cette question. Le plus grand défi auquel nous faisons face, c'est surtout l'afflux de patients qu'on reçoit. Moi, je suis aux urgences de l'hôpital national de Niamey. Vous recevez des malades deux fois. Il faut faire appel à des gens. Par exemple, les réanimateurs pour venir les prendre en charge. Mais après cette formation-là, je pense que moi, je suis à mesure à l'heure actuelle vraiment de poser le geste qu'il faut devant un patient urgent. Urgent pour le sauver, pour sauver sa vie. Et également, à l'issue de cette formation-là, c'est une fois maintenant en activité aux urgences, ce de restituer à mes collègues qui sont là les acquis de cette formation. Et en plus de ça, et l'appliquer également sur le terrain et amener également mes collègues à l'appliquer sur le terrain pour pouvoir sauver des vies humaines.
D'accord. Alors, sauver des vies humaines, ces soins d'urgence primaire peuvent vraiment influencer positivement la mortalité et la morbidité des victimes. Docteur Taher, à quel pourcentage?
Je pense que ça, si on a le bon réflexe, quand je dis le bon réflexe, c'est-à-dire on a la compétence qu'il faut et qu'on le fasse dans le délai, c'est-à-dire au moment opportun, je pense que la chance de sauver la vie du patient est énorme. On ne peut pas donner un pourcentage comme ça sans pouvoir m'hasarder, mais ce qui est certain, tant qu'on pose le geste qu'il faut et au moment opportun, la probabilité pour sauver la vie du patient ou bien de la patiente est vraiment très, très, très élevée. Mm-hmm. Donc là, franchement, c'est une approche qui a fait ses preuves, bien que ça n'a pas commencé ici au Niger. Donc ça, c'est un concept qui a été développé depuis 2014. Et de 2014 à 2018, on a fait la phase pilote dans 3 pays anglophones. Et les autres pays, depuis 2018, cette formation a été dispensée en Afrique, en Europe, dans les Amériques et tout. Et cette formation a vraiment fait ses preuves dans le cadre de la réduction de la mortalité des patients, surtout confrontés dans des situations où les ressources sont vraiment limitées. Donc la chance de sauver des vies, je n'en doute pas que elle est vraiment appréciable.
Quelle sera la suite après cette formation?
La suite sera, le CICR va continuer à soutenir cette initiative-là, d'autant plus que le CICR n'est pas, bien qu'au Niger, on peut dire qu'on vient de le commencer, peut-être d'autres institutions vont emboîter le pas et aussi le ministère de la Santé qui a vraiment décidé d'accompagner cette formation. Donc la suite sera déjà les formateurs qui ont été formés vont faire la restitution dans leurs services différents parce que ça fait partie de l'une des exigences des maîtres formateurs, que chacun ne garde pas ça pour soi, même si tu ne peux pas organiser la formation en tant que telle parce qu'il y a un certain nombre d'exigences qui sont requises, mais la restitution, elle est obligatoire.
Donc il y aura un suivi, de la part du CICR?
Exactement, il y aura un suivi de la part du CICR et aussi le CICR a prévu organiser cette même formation l'année prochaine aussi en 2025. Le CICR a prévu déjà soutenir financièrement l'organisation de cette formation l'année prochaine, mais aussi encourager les structures sanitaires à l'implémenter dans leur formation sanitaire. Donc les formateurs qui sont sortis à l'issue de cette formation sont dès lors devenus des ambassadeurs du BEC.
Voilà.
Donc eux, ils vont transmettre les bonnes manières à partir de cet instant.
Alors docteur Cissé, vous êtes le maître formateur, vous avez formé des participants qui sont aujourd'hui devenus également des formateurs, autant pour moi. Est-ce qu'il y a un bilan à mi-parcours que vous pouvez nous donner?
Oui, le bilan, c'est déjà la satisfaction personnelle que le Niger ait pu aujourd'hui implémenter la formation des soins primaires ici à Niamey et les promesses que l'année prochaine, ça sera sur l'ensemble du territoire nigérien. Donc, nous sommes convaincus qu'avec tout ce que les formés et qui sont devenus formateurs aujourd'hui nous ont montré au cours de ces différentes sessions que la relève elle est bien assurée. Donc on est certain aujourd'hui que voilà, ils pourront vraiment conduire à bien les prochaines sessions de formation et on espère que quand ce sera vraiment implémenté complètement au Niger, ça va beaucoup contribuer à diminuer la morbimortalité au niveau du pays.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres modules ou bien adaptés aux personnes fragiles touchées par un conflit ou bien que vous avez développé outre ces soins d'urgence?
Oui,
bien la question revient à Tahir.
Le CICR, utilise beaucoup de modules pour les pays où le conflit fait des ravages. Voilà, donc nous avons les modules qui ne sont pas pris en charge par le BEC, tels que la prise en charge des blessés de guerre, tels que la gestion de l'afflux des blessés. Voilà, entre autres, ces modules qui sont dispensés par le CICR. Voilà, mais parallèlement aux soins primaires d'urgence qui constituent aussi un module important au niveau du CICR.
Oui, Tahir, un complément d'information.
Je pense qu'en dehors de ces modules, de formation qui sont déjà des modules contractuels, il y a le CICR encourage aussi le renforcement des capacités continues. Donc quand je dis renforcement des capacités continues, il y a un certain nombre de structures sanitaires. Par exemple, les centres de santé intégrés, ils sont au nombre de 13 que le CICR est en train de soutenir actuellement au Niger. Et aussi au niveau des centres de santé secondaires qui sont les hôpitaux, qui sont au nombre de 7 que le CICR soutient. Donc le CICR renforce les capacités de ces structures-là à travers souvent un approvisionnement régulier en matériel et médicaments et aussi dans la formation continue, le renforcement des capacités continues à travers aussi l'organisation des supervisions conjointes avec les autorités locales.
Mm-hmm. Docteur Abdoul Karim, vous êtes chirurgien, médecin chirurgien. Sur le terrain, à part l'approche de ces soins d'urgence primaire, de quoi avez-vous besoin sur le terrain?
Comme renforcement de capacité, déjà après la formation de base, tout un spécialiste a besoin d'un renforcement de capacité. Mm-hmm. Si je veux m'amener à répondre à votre question, comme renforcement de capacité, toujours dans le même cadre, dans la gestion des blessés de guerre, l'année passée, on a reçu une formation sur la chirurgie de guerre. Et cette année, voilà cette formation qui vient à point nommé également. Nous souhaitons à ce que cette approche de soins primaires d'urgence soit vulgarisée même au niveau de la faculté de médecine, que ça soit enseigné là-bas pour que cette relève-là puisse avoir vraiment des attitudes à prendre les malades en charge.
Mm-hmm. Alors, docteur Cissé, quand pensez-vous que ça soit un module même au niveau de la faculté des sciences, comme le dit docteur Abdoul Karim?
Absolument, puisqu'il s'agit des soins primaires d'urgence, donc des soins basiques. L'idéal aurait été de les implémenter au niveau des soins, des établissements d'enseignement. Là, vraiment, les gens vont développer ces compétences et en faire des acquis avant d'être même sur le terrain. Mmh. Voilà, c'est parce que malheureusement, les gens n'ont pas ces acquis qu'aujourd'hui, on essaie de rattraper ce qu'on a perdu depuis la formation de base. Mmh. Voilà, et on espère que, avec l'accompagnement des autorités, que cette réflexion sera bien menée pour voir dans quelle mesure intégrer ces soins primaires d'urgence au niveau des formations sanitaires.
Alors, docteur Tahir, vous le disiez, cette initiative du CICR, c'est la première initiative au Niger. Elle est déjà appliquée dans d'autres pays, vous disiez?
Oui, pour le Niger, en fait, cette initiative, le Niger, c'est la première fois, d'ailleurs. Donc, nous avons organisé cette formation. Dans d'autres pays, cette initiative-là a permis de former des milliers et des milliers de personnes à des parts le monde. Quand je prends l'exemple des pays anglophones, ils sont largement en avance dans l'appropriation et aussi l'implémentation de ces concepts-là de soins primaires d'urgence au niveau des formations sanitaires.
Et de par vos expériences, quel est le constat sur le terrain aujourd'hui?
Le constat, c'est que le besoin est là. le constat, et c'est que le besoin est vraiment là. Et c'est un module qui cadre parfaitement à la réalité du terrain, à la réalité de ce que nous nous sommes confrontés. Donc là, c'est un module qui a vraiment sa place au Niger, et c'est un module dont l'appropriation ne sera pas du tout difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons vraiment été très touchés par l'implication et aussi par la sensibilité des autorités du Niger, que nous remercions une fois de plus, qui nous ont vraiment aidés à pouvoir organiser cette formation au Niger.
Oui, mais dans la mise en pratique de cette initiative dans les différentes localités, quelle est l'approche que vous comptez suivre avec les communautés, tout ça?
Avec les communautés, l'approche que nous voudrons suivre déjà, nous avons un pool de formateurs et de master trainers. Donc, les besoins sont là. En fonction des besoins, on va s'appuyer sur ces formateurs-là et aussi, on va s'appuyer aussi sur les autorités sanitaires. Mmh. Donc, c'est eux qui connaissent les besoins réels qui se trouvent dans leur zone, dans leur aire de santé. Donc, en fonction de ces besoins-là qui nous seront remontés, nous allons essayer d'organiser ces formateurs-là et pour pouvoir aller renforcer les capacités. Donc, on va vouloir, comme tout à l'heure on l'a rappelé, la formation requiert un certain nombre d'exigences aussi en matière de matériel et de consommables. Donc souvent, c'est vrai qu'on n'a pas, comme c'est la première initiative, on n'a pas presque tout ce qu'on a besoin comme matériel, mais le CICR est en train d'acquérir en fait l'ensemble des matériels qu'il faut pour l'implémentation de cette formation.
Mais est-ce que les participants bénéficient de ces matériels après la formation?
Malheureusement, on ne peut pas faire des donations spécifiques à ces personnes-là parce que ce sont des matériels qui sont beaucoup et énormes. Si on donne à une seule personne, déjà, c'est pas qu'il peut. Même si on donne à la personne, ça ne peut pas lui servir grand-chose parce que cette personne-là ne peut pas organiser la formation tout le temps.
La connaissance acquise déjà en est quelque chose.
Ouais, exactement.
Alors, docteur Abdelkarim, un dernier mot, comme le temps est contre nous. Oui, docteur.
Donc, le dernier mot, vraiment, c'est pour dire un grand merci à nos maîtres formateurs qui sont au nombre de 3, qui sont venus d'ailleurs, de très loin bien sûr. Et également, merci au CICR d'avoir organisé cette formation qui nous a permis d'acquérir des compétences. Et un merci également aux autorités.
Alors, docteur Cissé, je termine avec vous. Des conseils, des appels à tous les participants à ce cours, à ce module, pour une mise en œuvre efficace.
D'accord, merci. Donc, je vous remercie aussi, le studio Okalangu, pour déjà diffuser au large la connaissance de ces nouveaux concepts et les conseils que nous avons à l'endroit déjà des autorités. C'est de faire un suivi et de s'assurer que le personnel met en pratique tout ce qui a été appris le long de ces 3 semaines et des conseils à l'endroit aussi des formateurs de continuer la supervision, de continuer la restitution et afin que on puisse atteindre les objectifs qui constituent la majorité, minimiser les décès inutiles.
Merci bien. Peut-être Taher, vous aussi, un dernier mot, docteur Taher.
Le dernier mot que j'ai à dire, c'est remercier en fait l'ensemble des participants qui ont pu faire les déplacements du DIFA, du Zender, du Tawa, de Tilabéri, de Saï, pour venir participer à toutes les sessions de cette formation. Ce sont des personnes qui ont des responsabilités, donc ils ont participé à cette formation, c'est de leur dire merci, mais de dire aussi merci aux forces de défense et de sécurité qui ont aussi envoyé 6 personnes, dont 4 sont devenus des formateurs et 2 sont passés maîtres formateurs, et ça aussi c'est grâce à leur implication. Nous leur disons aussi merci pour leur implication pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant.
Merci. Donc c'est ici que se reforme le forum de Studio Kalangu qui avait parlé de l'importance des soins primaires d'urgence dans la réduction de la morbidité et la mortalité. De par donc les interventions de nos invités, les soins d'urgence, c'est un nouveau concept mis en œuvre par le CICR. Il est d'une importance capitale car réduit le taux de mortalité et de morbidité. Il faut donc que les bénéficiaires s'en approprient vraiment de ce cours pour limiter le taux de décès dans nos pays. Merci donc à nos invités, Dr Taher Hamed, coordinateur santé adjoint au CICR. Merci d'être venu. Docteur Abdulkarim Salifou, il est médecin chirurgien à l'hôpital national de Niamey et bénéficiaire de ce cours sur les soins d'urgence. Merci d'être venu. Docteur Abdoulaye Omar Cissé, il est maître formateur et vient du Mali. Merci donc à vous d'être venu. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. La technique a été assurée par Amina Hassan. À très bientôt sur le studio de Kalongo. Au revoir.